Vous écoutez
RMC. 16h, 18h, RMC spécial équipe de France.
Benoît Boutron.
L'intégral foot spécial équipe de France avec coach Courbis et Jean-Michel Larquet. Jeannot Rességuier, la voix du foot sur RMC, est là également. On va se projeter sur l'événement de l'année 2022 qui va venir très vite. La Coupe du Monde au Qatar, le doublé est-il réalisable pour les joueurs de Didier Deschamps? Autre question qu'on va se poser, est-ce que le trio offensif Benzema, Mbappé, Griezmann doit rester intouchable? On parlera également du schéma tactique, ce 3-5-2. Est-ce que c'est le meilleur schéma tactique possible pour cette équipe de France? Et enfin, quelles sont vos surprises, les surprises à attendre dans le groupe pour ce mondial? C'est reparti pour l'intégral. 331 jours, soit 10 mois et 27 jours avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde qui, je vous le rappelle, pour la première fois de l'histoire, va se disputer en fin d'année, du 21 novembre 2022 au 18 décembre. Et d'ailleurs, petite précision, on l'a oublié, mais c'est la dernière fois qu'un mondial comptera 32 équipes avant de passer à 48 dès 2026. Donc c'est...
La FIFA a fait une tentative auprès du comité d'organisation de Qatar 2022 pour que justement on passe à 48 dès à présent.
Bon, profitons de ce mondial à 32.
Ça a été refusé. Il
faudrait choisir un pays un petit peu plus grand.
Comme c'est comme si tu faisais une Coupe du Monde en Corse, bon, légèrement un petit peu plus grande, le Qatar, mais bon,
La finale à Corté.
Ouais.
Pourquoi pas.
Une Coupe du Monde en voiture.
Voilà, exactement. Et la demi à Calvi. L'équipe de France, tenante du titre, on le rappelle, après son deuxième sacre en Russie en 2018, va tenter de réaliser un doublé. 50 ans après le Brésil, Captain Larquet, dernier pays après avoir réalisé cet exploit en 58 et 62.
Et 62, la Suède et le Chili.
Exactement. L'autre équipe qui a déjà réussi cet exploit, c'est l'Italie, un peu plus tôt, je crois.
C'était avant la guerre.
Ouais, avant la guerre, voilà.
Ça devait être 34-38.
Exactement.
Quelque chose
comme ça. Donc ça prouve la difficulté de la chose. Et on espère surtout, mon cher Jeannot Rességuier, que la France va briser la malédiction du 21e siècle. On rappelle que 4 des 5 champions se sont fait sortir dès la phase de poule. L'exception, c'est le Brésil en 2006. Il y a eu la France notamment en 2002. Il y a eu l'Espagne 2002. En 2010.
On a déjà donné, nous, ça va.
Voilà, exactement. Le doublé, vous semble-t-il réalisable? Jeannot va juste rappeler rapidement la date du tirage au sort. C'est ce qui nous intéresse forcément. Je crois que c'est le 1er avril. Il y a très peu de pays qualifiés pour l'instant. La France sera tête de série, je crois d'ailleurs, Jeannot.
Pour l'instant, par rapport notamment au classement FIFA et le fait d'avoir gagné la Ligue des Nations a apporté quelques points supplémentaires. Ce tirage au sort qui aura lieu à Doha. Et donnera donc l'occasion à cette équipe de France de connaître ses adversaires. Alors on rappelle que l'équipe de France est en tête de série, que le pays organisateur est en tête de série, le Qatar.
Ouais.
Par exemple, l'équipe de France ne pourra pas faire le match d'ouverture si l'on considère que le Qatar est déjà positionné en A1, comme dirait la bataille navale.
À l'heure où on se parle, parce qu'on n'a pas encore les barrages zone Afrique, on n'a pas les barrages zone Europe, d'ailleurs ça nous intéresse parce que ça concerne le Portugal et l'Italie qui pourraient s'affronter pour aller disputer ce mondial. Ouais. Je vous rappelle les 13 qualifiés, donc nous évidemment, le Brésil et l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et le Qatar. Jean-Michel, Roland, avant d'entrer dans le détail, est-ce que ce doublé, donc deux Coupes du Monde d'affilée pour l'équipe de France, ça vous semble réalisable?
Réalisable, oui. On fait partie, pour moi, de la dizaine d'équipes capables de gagner cette Coupe du Monde. Et les 9 autres équipes, même s'il y a aussi de très bons joueurs, n'ont pas Kylian Mbappé.
Donc pour toi, effectivement, avec Mbappé très en forme, c'est jouable. Captain, t'es d'accord là-dessus? Ouais.
Oui, bien sûr. Mais on mesure quand même la difficulté de l'exploit. Et il n'y a aucune raison pour qu'on soit champion du monde en temps normal. Il y a encore moins de raisons pour qu'on réussisse le doublé, parce que je ne crois pas que le football français, par rapport à sa qualité et par rapport au réservoir, soit le plus grand et le meilleur du monde.
Alors on a fait la liste, puisqu'on a passé ce 25 décembre avec coach Courbis, évidemment, on a ouvert les cadeaux ensemble ce matin. Je vous rappelle la liste des favoris qu'on a dressée quand même, le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie ou le Portugal. Roland, tu les as mis quand même, même s'ils ne sont pas sûrs de se qualifier pour l'instant. On verra ça en début d'année prochaine. L'Allemagne, qui reste évidemment une grande nation du foot mondial.
Et au niveau de l'Afrique, je mettrais Algérie et Sénégal s'ils se qualifient.
Et oui, parce que les barrages en Afrique sont compliqués là aussi. Un match aller-retour, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et tu as mis une surprise éventuelle, donc la traditionnelle surprise.
Qui a été, par exemple, la Croatie qui sont allés en finale. Donc voilà.
Ce qu'on peut dire, d'ailleurs, Jean-Michel notamment, c'est que la chance qu'on a, nous, par rapport aux autres, peut-être, c'est qu'on arrive.
C'est d'abord de la chance.
Déjà, on arrive avec du talent individuel. On espère qu'il n'arrivera rien à nos joueurs cadres, évidemment, mais offensivement, notamment, on a beaucoup de talent. On a du vécu également, parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde 2018, on a fait finale de l'Euro 2016. Bon, là, on est un peu passé à côté de l'Euro 2020, mais bon, on espère que ça va pas trop compter dans ce groupe. Et donc, on a cette expérience commune, ça peut nous servir quand même à rivaliser face à d'autres nations qui font partie des favoris quand même.
Oui, enfin, il y a aussi la forme du moment à laquelle je crois beaucoup. Hein, et je ne sais pas dans quel état seront les internationaux. Je pense quand même que c'est une période en général qui n'est pas très favorable au football français, cette période de novembre-décembre, lorsqu'il y a des trêves internationales.
Ça dépend si tu te positionnes, par exemple, en 2013 et que tu es battu en Ukraine et que tu renverses l'Ukraine pour aller en 2014 au Brésil. Ça reste quand même une belle période. Mais c'est vrai que statistiquement, l'équipe de France n'a pas toujours été excellente dans cette période-là.
Ça, c'est un point important. On le disait, la Coupe du Monde va démarrer le 21 novembre. Ça avantage qui, ces conditions, à votre avis? Personne en particulier?
Personne, parce que personne va se préparer normalement. Il n'y aura pas de préparation possible. Ouais. Il y a une mise à disposition des joueurs une semaine avant la compétition. C'est-à-dire, la compétition va démarrer le 21 novembre. Ouais. Une semaine avant, ils auront les joueurs à disposition, les sélectionneurs. Didier Deschamps pourra peut-être gagner 2, 3, 4 jours supplémentaires suivant le tirage au sort et suivant quand se déroulera le premier match des Bleus. Donc, il n'y aura pas de date internationale en octobre. C'est-à-dire, les derniers matchs qu'il va y avoir seront en septembre. Deux matchs, les deux derniers matchs des éliminatoires de la Ligue des Nations.
Aux alentours du 5, entre le 5 et le 10 septembre.
Exactement. En juin, tu remontes, t'auras 4 matchs, en juin, à la fin de cette saison, 4 matchs des éliminatoires de la Ligue des Nations. Au mois de mars, t'auras 2 matchs amicaux. Enfin, voilà, on va être dans des conditions de préparation qui vont tout de même rester assez exceptionnelles.
Alors justement, mais c'est peut-être pour cette raison que le fait que ce soit une équipe qui ait quand même du vécu, il y aura probablement du changement, parce que on s'en rend pas compte au fur et à mesure d'un match sur l'autre, mais d'une Coupe du Monde sur l'autre, on verra qu'il y a des changements. Et puis il y a aussi du talent à Didier Deschamps de trouver la bonne solution, celle qui consisterait peut-être à ne pas toujours être à l'écoute de l'adversaire, se positionner par rapport à l'adversaire, plutôt que, il me semblerait que ce serait bien qu'à un moment ou un autre, l'équipe de France s'impose par rapport à l'adversaire.
Il y aura quand même, capitaine, un grand point d'interrogation, compte tenu qu'on dit qu'il n'y a que 8 jours. OK. Ce qui veut dire que sur les 3 semaines avant ce dernier match avec leur club, il y aura quand même des matchs très importants avec leur club, et qui dit important, avec des calendriers rapprochés, dit aussi des risques de blessures. Donc là, on part sur la discussion. J'ai cru entendre que ça sera 23 joueurs et pas 26. Mais moi, j'aimerais que ça soit 29. Et
pour l'instant, pas 23. On est sur la base de 23 parce que c'est la base du règlement. Mais ce règlement a été corrigé, modifié avec l'Euro 2021, en tenant compte de la pandémie, en tenant compte de la Covid. Il y a 5 changements possibles jusqu'à la Coupe du Monde inclus, ça ne l'oublions pas, la FIFA l'a adopté. Il est possible aussi que, suivant l'évolution de la pandémie, on est sur une cinquième vague, d'autres parlent même d'une sixième vague possible avec l'évolution des variants, donc peut-être que la FIFA aussi tiendra compte de cela et qu'on élargira la liste. Après, on reviendra sur le problème de Didier Deschamps qu'il avait soulevé avec d'autres sélectionneurs sur le fait que lui ne veut pas 23 joueurs des 26 sur la feuille de match, il veut tout le monde sur la feuille de match, parce que il est embêté à chaque fois, et je le comprends, et il n'est pas le seul, de se retrouver à faire un choix de mettre automatiquement des joueurs en tribune.
Tiens, on rappelle juste que l'idée de la Fédération française, c'est de pouvoir aller disputer des matchs au Qatar dès le mois de mars pour pouvoir se s'acclimater. On est sûr de rien avec les conditions sanitaires, mais c'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération, Noël Le Graët, à notre micro au début du mois.
C'est l'objectif.
Ouais.
Il y aura 2 matchs amicaux au mois de mars. Et on discute avec le Qatar. Si on n'arrive pas à avoir les documents rapidement, bien entendu qu'on jouera un en France et à l'étranger, pas trop loin.
Important, capitaine, si possible, d'aller s'acclimater là-bas, de prendre des repères pour la compétition qui arrivera en fin d'année.
Oui, enfin, c'est pas non plus... c'est toujours bien d'y aller. Je ne sais pas, moi, ce que ça avait donné l'équipe de France lors de sa Coupe du Monde en Corée et au Japon.
Il y avait la Coupe des Confédérations un an avant, il l'avait gagné.
Et pourtant, Et pourtant, on est en parva, j'en viens. Nous étions avec Eric Carrière qui avait fini meilleur buteur de cette compétition avec 2 buts. Voilà.
Arrêtez de me parler de la préparation de 2002. Je revois le strap sur la jambe de Zidane, ça me fait mal au cœur. Vous vous souvenez pas de ça?
Il est arrivé en hélicoptère à Ibouzouki, on en reparle. Non, on en reparle pas.
Ne parlons pas de ça.
Mais après, si tu veux, de préparer la Coupe du Monde en étant passé par la case Qatar, ça ne peut qu'avoir du positif. Après, on est le 25 décembre, l'équipe de France, une partie du staff a déjà fait un voyage au Qatar pour aller faire du repérage, pour aller justement peut-être finaliser le camp de base et voir de quelle manière on va articuler cette Coupe du Monde. Encore une fois, j'insiste, très particulière, seulement 50 km d'écart entre les deux stades les plus éloignés.
Voilà.
Il faut en tenir compte.
Les déplacements, au moins.
Il faut en tenir compte. Ça veut dire que il y aura pas le confort de l'avion. Il y aura le confort du bus pour se déplacer.
50 km.
Mais je m'amuse. Je mets une pointe d'humour.
C'est incroyable. Oui, il pourrait même le faire en vélo.
Vous avez le souvenir, vous, de l'équipe de France qui se déplace en bus?
Ah, mais 50 km, Jeannot, quand même.
C'est jamais arrivé.
Ah, quand même. Clairefontaine jusqu'à Roissy, c'est combien?
Ah, ben oui, ça, oui, d'accord. Voilà, il se déplace en bus.
Tiens, accueillons Damien qui nous appelle au 32-16. Salut, Damien.
Messieurs, salut à tous.
Joyeux Noël à vous. Est-ce que pour toi, le doublé, donc remporter 2 Coupes du Monde d'affilée pour les Bleus, c'est réalisable?
Ah, clairement, oui. Enfin, faut pas se cacher. On va faire partie des favoris. On a sûrement aujourd'hui l'équipe qui a le, comme vous l'avez dit, le plus de vécu ensemble et qui collectivement a le plus de valeur sûre. Je pense qu'on a une colonne vertébrale aujourd'hui qui part de Varane et qui va jusqu'à Mbappé. On sait très bien quels sont les joueurs qui vont débuter, mis à part peut-être un physique ou autre. Mais s'il n'y a pas de soucis, je pense qu'on a l'équipe qui, collectivement, a le plus de certitude aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Après, forcément, c'est une Coupe du Monde où il y a beaucoup d'interrogations. Vous l'avez dit, préparation qui va être très courte. Le Qatar, avec peu de déplacements. Et tout le monde qui va être logé au même endroit. C'est un pays où on n'a pas l'habitude de jouer. Il y a plein de choses qui font qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et il n'y a pas une équipe qui se dégage comme étant le grand favori de la compétition, parce qu'il n'y a pas une équipe qui surdomine le football mondial aujourd'hui. Justement, mis à part nous, peut-être un peu, parce que, encore une fois, certes, on est passé à côté de l'Euro et on sait les raisons aujourd'hui, mais on l'a vu, la Ligue des Nations, on était mal embarqué dans les matchs, on a sorti des matchs incroyables, que ce soit contre l'Espagne, la Belgique, avec des deuxièmes mi-temps de très très haut niveau, avec des joueurs mais d'une qualité incroyable, et je pense que personne aujourd'hui n'a notre qualité.
Damien, si je peux me permettre, il y a peut-être le Brésil qui a fait une super campagne de qualification et qui a une belle génération.
Qui n'a pas gagné la Copa América.
Non, c'est vrai, parce que c'est l'Argentine qui l'a gagné avec Messi.
Ouais, mais justement, cette équipe argentine, je la vois meilleure qu'en 2018. Ouais.
Dernière Coupe du Monde pour Messi.
Eh oui, exactement. Donc ça sera à surveiller. Puis tiens, juste pour terminer sur ce sujet, je te remercie Damien. D'ailleurs, encore joyeux Noël à toi. Évidemment.
Merci à vous.
Et juste pour terminer, oui, j'ai regardé sur les sites de Paris en ligne, ça nous intéresse. Notamment toi, coach Courbis. Qui est le favori à ton avis? Il y a 2 favoris.
La France.
Voilà. France et Brésil, la cote.
Ouais. Et Brésil.
5?
7. Après, on a l'Angleterre à 8,50.
Ça veut dire que tu peux parier 7 dès aujourd'hui, dès à présent?
Tu mets 10 euros. Si on est champion du monde dans 10 mois, eh ben, tu gagnes.
Moi, tu risques pas, mais c'est OK, d'accord.
Et si tu mises sur l'Espagne, c'est 9, donc c'est coté à 9. Donc si tu mets 10 euros, tu gagnes 90 euros.
Ils seront pas mal, les Espagnols.
Ouais, il faudra les surveiller. Effectivement, ils nous avaient fait mal en Ligue des Nations, même si on avait fini par les battre. Dans un instant, messieurs, on poursuit les débats. On va évoquer ce fameux trio offensif Mbappé, Griezmann, Benzema. Est-ce que ce trio doit rester intouchable? On en parle là tout de suite.
Jusqu'à 18h, RMC, spéciale équipe de France.
Benoît Boutron.
Coach Courbis est là, Captain Larquet également, Jeannot Rességuier, la voix du foot. On vous souhaite une nouvelle fois un joyeux Noël et on se projette déjà, nous, sur la Coupe du Monde au Qatar. Elle sera à suivre dès le 21 novembre sur RMC. On va parler tactique et avec les yeux de coach Courbis qui s'illuminent. Puisque dans un quart d'heure, on parlera de ce 3-5-2. Est-ce que c'est le meilleur schéma possible pour cette équipe de France? Mais auparavant, on va démarrer avec ce trio offensif installé par Didier Deschamps depuis le retour de Karim Benzema. Donc Benzema, Griezmann, Mbappé. Un trio qui fait rêver sur le papier, mais qui pose toujours question. Est-ce qu'il doit rester intouchable en vue du Qatar? Jeannot, est-ce que tu as les stats des trois depuis le retour de Benzema en tête?
Je crois celui qui est le plus efficace au niveau des trois, c'est Kylian Mbappé. Celui qui est le plus efficace et participatif de l'un vis-à-vis de l'autre, c'est Kylian Mbappé. Après, il y a Antoine Griezmann qui commence à avoir des statistiques, notamment dans la participation préoccupation vis-à-vis des deux autres, avec Mbappé et avec Griezmann et avec Benzema, qui sont de plus en plus intéressantes. Mais Griezmann reste quand même quelqu'un de d'important au niveau des buts, et rejoint aussi de par les quatre buts qu'a marqué par exemple Benzema et les buts qu'il a marqués en Ligue des Nations. Donc ça commence à s'équilibrer au niveau des statistiques individuelles pour chacun des trois. En revanche, pour celui qui participe le plus à la réussite du trio, c'est Kylian Mbappé.
Alors si je peux me permettre, sur l'année 2021, ouais, j'ai les stats. Benzema, c'est 9 buts quand même, alors qu'il a joué moins de matchs que Griezmann et Mbappé. Griezmann en a mis autant, 9 buts. 8 buts pour Mbappé, mais je trouve que c'est un peu trompeur, parce qu'effectivement, il a mis quadruplé lors du match pour la qualif au Parc des Princes. Jeannot, tu te rappelles?
Oui, hein, contre le Kazakhstan.
Kazakhstan, voilà. Donc bon, il a mis la moitié de ses buts sur le même
mais
match.
Moi, je parle
en revanche,
Mbappé
a fait 6 passes des.
Voilà, donc c'est un peu dans la globalité. Et je retiens en fait le moment où Benzema est rappelé, donc l'Euro, avec ce qui s'est passé, avec la qualif, ok, mais surtout, et d'ailleurs la qualif, vous m'avez dit qu'elle était réglée d'avance, donc on passe à la Ligue des Nations, et la Ligue des Nations, sur ces deux compétitions-là, à partir de la Ligue des Nations, on a commencé à vraiment sentir un véritable plus pour l'équipe de France dans la façon dont les trois ont commencé à mieux jouer ensemble.
Et le sélectionneur Didier Deschamps était l'invité de Rotten sans flamme au début du mois de décembre. On lui a parlé effectivement de ce trio offensif, et lui, systématiquement, il insiste pour ajouter Griezmann au duo Benzema-Mbappé. C'est important pour lui de compter sur les trois. Écoutez.
Il y a deux attaquants, mais j'en ai trois. Oui. Il y en a deux qui sont attaquants, Karim et Kylian, mais moi j'ai une animation à trois dans ma
tête. Okay,
et c'est ça qui m'intéresse pour être plus dangereux pour l'adversaire.
Voilà, l'avis de Didier Deschamps donc sur ce trio. Et juste un autre chiffre qui illustre l'importance de Griezmann dans cette équipe de France, peu importe sa forme d'ailleurs. Sur 2021, ça a été le joueur de champ le plus utilisé, 1335 minutes, juste derrière Lloris qui lui est gardien de but, mais devant Mbappé, Pogba ou encore Kimpembe, capitaine.
Ah non, Benoît, peu importe la forme de Griezmann. Aujourd'hui, on se réjouit quand même de revoir le Griezmann que l'on avait connu.
Oui, mais je te parle de l'année 2021. Il a eu des moments compliqués quand même en début d'année.
Oui, mais bon, il a eu des moments compliqués, et son début de saison 21-22 est plutôt bon, voire très bon, avec son retour à l'Atlético.
Oui, c'est vrai.
Donc, on est en train de retrouver le Griezmann autour duquel on avait... construit l'animation offensive de l'équipe de France. Mais je reviens sur ce qu'a dit coach au cours de la première heure. Vous parlez du trio offensif, mais pour que ce soit un trio offensif, il faudrait que ce soit trois joueurs véritablement offensifs. Or, on sait déjà que le sélectionneur national à trois, c'est déjà beaucoup pour lui. Mais coach, il a dit une vérité, c'est que Griezmann n'est plus un attaquant. Aujourd'hui, c'est un milieu de terrain offensif. Et moi, dans cette animation, et je crois que ça a été le cas dans certains matchs où on était en difficulté, et le fait qu'on ait adopté la composition que je vais vous énoncer, ça nous a sorti parfois une épine du pied. Mais c'est interdit de faire jouer Coman dans l'équipe
ça
de France.
Venir. Ça va venir.
J'allais y venir.
Alors,
c'est interdit d'avoir un milieu de terrain Kanté, Pogba, Griezmann, et d'avoir une attaque Coman, Benzema, Mbappé. Mais c'est marqué où que c'est interdit?
Dans le logiciel Didier Deschamps, c'est dur à mettre en place. Je précise juste qu'il a été interrogé là-dessus par
Jérôme.
C'est
moi qui l'ai interrogé là-dessus. Il m'a dit non.
Exactement.
Il n'avait pas question.
Brillamment. En fait, il t'a pas répondu ça exactement, mais c'est ce que ça voulait dire, parce qu'il t'a dit c'est possible au départ et aussi en cours de match. Donc sous-entendu, si ça arrive, c'est souvent que Coman démarre sur le banc. Voilà, exactement.
Mais est-ce que ça peut pas être l'option principale?
Ah ben, nous on est tous convaincus, capitaine. Après, on sait très bien que ça n'arrivera pas.
Alors juste pour en terminer, et je veux pas monopoliser.
Pas de problème.
Il y a ce chantier-là. Mais derrière, messieurs, en défense centrale, où auparavant on avait Kimpembe, pas terrible en ce moment. Umtiti, pas terrible en ce moment. Langlais, pas terrible en ce moment. Varane, pas terrible en ce moment. C'est pas un chantier non plus.
Ah ça, on aura le temps d'en parler dans 10 minutes avec ce schéma tactique. Là, on est plutôt sur le trio offensif.
Excusez-moi.
Capitaine, tu abondes dans le sens de Jean-Michel. Tu le disais tout à l'heure, tu aimerais bien voir un Coman associé à ce trio.
Et puis en plus de ça, quand on a, allez, par précaution, par politesse, par tout ce que tu veux, l'idée de faire gaffe de pas trop parler de Benzema et d'Mbappé, et donc de dire Griezmann, c'est le troisième, c'est une animation à trois.
Hein,
et tu peux insister aussi sur un quatrième et rajouter, on démarrera vraisemblablement avec trois tout de suite et peut-être un quatrième en cours de match en fonction des événements. Mais Coman aussi, il a des oreilles, un cerveau et il réfléchit s'il est important ou pas. Et moi, je le trouve très important.
Jeannot, est-ce qu'on sait en coulisses comment vit ce trio? Quels sont les rapports humains entre Mbappé, Benzema et Griezmann?
Ça vit plutôt bien, oui, parce que ce sont des joueurs intelligents. Mais je peux pas dire que entre Mbappé, Benzema et Griezmann, ce soit l'entente parfaite en dehors du terrain. En revanche, sur le terrain, il n'y a pas de souci de ce côté-là, parce qu'ils ont un seul objectif commun, c'est d'arriver à gagner avec l'équipe de France, comme ils l'ont fait en Ligue des Nations. Mais après, Griezmann est quelqu'un de facile à vivre, c'est quelqu'un qui participe beaucoup à la vie du vestiaire. Il parle très peu, moins que Pogba, mais quand il parle, quand il s'exprime, c'est, j'ai envie de dire, un peu plus en complément de certains autres cadres. Karim Benzema est un petit peu plus effacé depuis son retour en équipe de France, et Kylian Mbappé a de plus en plus donne l'impression de vouloir s'imposer un peu plus dans le vestiaire, mais les trois s'entendent plutôt bien.
Après, vous m'avez parlé effectivement de Kingsley Coman, je veux bien l'entendre, il peut intégrer cette équipe. On parle de trio indéboulonnable, capitaine. En même temps, qui peut les concurrencer actuellement? Il y a pas vraiment de concurrence pour ces trois joueurs, notamment les deux avant-centres. On a bien compris dans l'interview de Deschamps chez Jérôme que pour Giroud c'était terminé ou quasiment. Hein, évidemment, on aura du mal à l'imaginer revenir en bleu. Hein, ça forcément.
Surtout dans le dispositif en 3-4-3 ou en 3-5-2 où tu te rends compte que
il y a pas vraiment de concurrence devant.
Mais, en fait. De concurrence, concurrent de Mbappé, et Benzema. Et
ah non, évidemment, bien sûr. Mais ce qui est inquiétant, c'est que s'il arrive une tuile à l'un ou l'autre.
C'est extraordinaire quand même. Vous avez un pouvoir, un don d'oubli exceptionnel. Ah. C'est-à-dire qu'il y a, on est au mois de décembre.
Le 25 décembre.
Alors je vais dire, il y a 8 mois de cela. Il y a 8 mois de cela. Là, on ne parlait même pas de Benzema en équipe de France. Donc on parlait de c'était Giroud l'attaquant de pointe, voire Ben Yedder.
Enfin, Giroud était critiqué.
Et ça a toujours fait débat, Giroud, captain.
Donc faites attention, la concurrence arrive parfois plus vite qu'on ne l'imagine. À l'instant T, non. Mais Griezmann a été sur le grill il n'y a pas si longtemps que ça, les gars.
Si on se réfère à d'où peut venir la concurrence.
Voilà.
Quels sont les noms qui ont été évoqués par le passé et un passé récent? Il y a eu Moussa Dembélé, par exemple.
Jeannot aussi.
Bon, qu'est-ce que ça donne à Lyon pour l'instant? Non, mais attends, juste.
Martial un peu.
Martial existe déjà au sein de.
Il y a Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé, mais c'est plus une concurrence. Pour moi, à Coman, je trouve maintenant qu'un attaquant axial, peut-être dans un deuxième temps, on verra. Hudson-Edouard, dont on a parlé aussi, où est passé Pléa. Voilà, il y a non, mais c'est Thuram. Le problème aujourd'hui, Thuram. Je sais pas, t'en vois d'autres, toi, capitaine, chez les espoirs.
C'est toi qui va m'éclairer. Il devait faire un choix. Où est le petit alert de
Ah, mais lui, il voit rien. Il est avec la sélection de Côte d'Ivoire.
Il avait la possibilité.
Il a été international jeune et espoir. Ouais. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui. Voilà, là, par contre, on pouvait parler d'une réelle concurrence en équipe de France, mais dans un rôle plus proche de celui qu'avait Giroud, par exemple. Là, dans
finalement, on n'est pas tant fourni que ça.
Dans la qualité des trois, c'est compliqué. Moi, ça me paraît très compliqué.
Ouais. Roland, c'est vrai.
Ah ben non, puis en plus de ça, du niveau de Benzema et Mbappé, il n'y en a pas beaucoup dans le monde.
Imaginez un Coman un peu plus haut, vous parlez de lui en piston, est-ce qu'on peut l'imaginer dans la rotation
pousse,
de devant?
Un qui pousse, Nkunku, de par ses statistiques.
Oui, on en parlera tout à l'heure, dans les emprises possibles, effectivement, qui lui pourrait être appelé d'ici quelques mois. Rappelons juste que sur les dernières sélections, on a vu un Wissam Ben Yedder, mais qui est très peu utilisé, notamment le capitaine de Monaco.
Ouais, je pense que c'est compliqué pour lui et ça va être... Très compliqué. C'est mon sentiment.
Ça dépend de son choix de club cet hiver. S'il s'en va de Manchester et qu'il retrouve du temps de jeu, ça peut être intéressant. On ne sait pas où en est Marcus Thuram, qui vit une année un peu compliquée. Lui qui était à l'Euro, on le rappelle, Marcus Thuram, qui était avec l'équipe de France.
Mais qui formait un beau duo avec Pléa. Et là, pour le moment, ce n'est plus le cas, mais ça peut le redevenir rapidement.
Ouais, en tout cas, c'est à surveiller. Donc, ce trio qui sera notre fer de lance pour l'équipe de France, pour le Qatar en 2022, ce trio Mbappé, Griezmann, Benzema. Dans un un instant, l'intégral foot spécial équipe de France continue. On débat justement du schéma tactique, ce 3-5-2. Est-ce que c'est vraiment le meilleur schéma possible pour cette équipe de France? On est là avec coach Courbis, Jeannot Rességuier et Captain Larquet. À tout de suite.
16h, 18h, RMC, spécial équipe de France.
Benoît Boutron.
Coach Courbis, Captain Larquet, Jeannot Rességuier, on vous souhaite une nouvelle fois un joyeux Noël en ce 25 décembre avec nous sur RMC. Je précise d'ailleurs que dans un quart d'heure, on parlera de vos surprises pour la Coupe du Monde. Vous qui êtes supporter, je ne sais pas, du RC Lens, de Montpellier, ou alors de Leipzig, si vous voulez voir Nkunku, Klos ou Savanier en équipe de France.
Et allez, vous pouvez venir nous dire.
On en parlera dans un instant. On aura les surprises d'ailleurs de Roland et de Jean-Michel. Même toi, Jeannot, tu nous auras ton avis. Tu vois, quel joueur tu vois pour intégrer cette équipe de France. Et puis je précise que dans 30 minutes, ce sera Noël à la Casar sur RMC avec Julien et Adrien Aigouin jusqu'à 21h. Carte blanche pour Julien pendant 3h. Ça peut être un grand n'importe quoi. Mais parlons tactique tout de suite. C'est pour ça qu'on a convoqué coach Courbis en ce jour de Noël. On rappelle que Deschamps semble avoir trouvé son schéma préférentiel, celui qui a permis aux Bleus de remporter la Ligue des Nations au mois d'octobre, 2 victoires contre la Belgique et l'Espagne. Deschamps qui justement en a parlé dans Rotten sans flamme il y a quelques jours, souvenez-vous.
C'est dans le même système, pas forcément avec les mêmes joueurs, mais tu peux continuer à gagner, mais c'est pas une garantie. C'est pas changeant pour changer. Après, c'est par rapport, moi, mon objectif, c'est à chaque fois, c'est par rapport aux joueurs que je sélectionne. C'est pas, j'ai mon système et vous rentrez dans le système. De faire en sorte de les mettre chacun dans leur meilleure position.
Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est du pragmatisme de la part de Deschamps, même si Jeannot, c'est une idée qu'il avait en tête depuis bien longtemps, bien avant l'Euro.
Ah oui, oui,
fan de cette défense à 3.
Notamment. 2019, c'était en Albanie qu'il avait testé la formule, qu'il avait reconduit ensuite derrière en Ligue des Nations, en phase éliminatoire, contre la Croatie, contre la Suède. Après disparition totale, bon, il y a eu la Covid qui est passée par là, il y a eu le report de l'Euro, dans le cadre de la préparation de l'Euro et avec l'Euro, il n'y a pas eu d'utilisation des trois défenseurs axiaux, si ce n'est contre la Suisse. Ça a duré même pas 45 minutes. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'installation de ce système-là avec la continuité des éliminatoires de la Coupe du Monde et avec la finale à 4 de la Ligue des Nations. Après, je pense que c'est pas figé par rapport aux candidats pour occuper les postes. Je pense que dans les différentes compositions d'équipe qu'il a mis en place, il a voulu regarder ce que ça pouvait donner. Donc on l'a dit avec l'anglais par rapport à sa position axiale, avec Varane, avec Upamecano, avec Zouma, avec Kimpembe. Mais... Et il y a une chose, moi, qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, et j'aimerais bien entendre capitaine et coach là-dessus. Souvenez-vous du déplacement en Finlande. Vous aviez tous, là, la plupart des consultants d'RMC, vous nous aviez dit à Loïc Tanzi et à moi, essayez de poser la question concrètement à Deschamps, pourquoi il ne positionne pas Pavard dans les candidats, justement, aux défenseurs centraux.
Que Roland de réclame depuis
exactement, en défense à 4 ou en défense à 3. La réponse, elle a été mais très rapide et limpide, parce que j'ai d'autres joueurs et que pour moi, je l'utilise à droite et que c'est à droite que je dois l'utiliser. Coup d'envoi du match Finlande-France, Dubois est titulaire en piston droit, se blesse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a Koundé qui laisse sa place à Coman. Coman prend une place de piston droit et Pavard devient le fameux axial droit alors que Deschamps nous dit l'inverse la veille. Est-ce que quelque part, il n'a pas une idée précise?
Il a dû écouter RMC.
En position peut-être, en position de piston droit Coman et derrière la sécurité avec quelqu'un qui a plus cette âme-là de défenseur et plus proche de l'axe.
Bah, c'est son vrai poste, hein, Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard, coach, capitaine.
Ben oui, Benjamin Pavard, quand il joue arrière central côté droit, un arrière central côté droit dans le mécanisme d'une organisation à trois arrières centraux, c'est un joueur qui coulisse derrière le couloir. Et quand Pavard coulisse derrière le couloir, il se retrouve au poste d'arrière droit, qui est son poste dans une organisation à quatre. Donc c'est... On ne peut plus évident que Pavard, le poste dans une organisation à trois arrières centraux, c'est arrière central côté droit.
Et c'est on ne peut plus évident.
Et surtout pas piston.
Captain, qu'en piston, il est en difficulté, Benjamin Pavard. On peut le dire.
En piston, c'est le Sissoko ou le Matuidi, c'est-à-dire le joueur caché de Didier.
Exactement.
Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Koundé lors du dernier match, me semble-t-il.
Ben Koundé était centre droit dans les défenseurs à trois.
Regarde bien le match. Le couloir qu'il occupait ou la zone qu'il occupait était véritablement, alors je dis pas collé à la ligne de touche, mais c'était un défenseur droit très à droite.
Oui, mais parce que voilà. Parce que entre-temps
mais c'est pas une question d'équilibre avec Dubois qui se blesse avec Théo Hernandez de l'autre
quelque
côté.
Quelque part. Ouais. Mais bien sûr, mais ouais. Si vous mettez à condition qu'il revienne un vrai défenseur. Je parle de Varane là. Mais si vous mettez une défense centrale avec Varane parmi les trois dans l'axe, hein, on dit dans l'axe, à droite, à sa droite, défenseur droit, défenseur central droit, soit Pavard, soit Koundé. Mmh. Et à gauche, le petit Hernandez. C'est pas solide là ?
Ah oui, oui.
Ou Kimpembe.
Enfin, pas le petit Hernandez, non. L'aîné des deux. Ouais, le petit, tu le mets piston gauche.
Je dis le petit parce qu'ils sont tous petits pour moi.
Oui, c'est ça.
Voilà, oui. Jeune, en tout cas. Voilà. Mais moi, j'aime bien la famille Hernandez.
Ah, les deux Hernandez, ça sera difficile s'ils sont en forme de ne pas les faire jouer.
J'aime bien Jeannot parce que des leaders techniques dans cette équipe-là, on en a beaucoup.
Oui.
On en a parfois même.
Des leaders de vestiaire,
il en manque un peu. Mais des leaders. Moi, je dis des leaders physiques, ceux qui sur le terrain mettent, voilà, ceux qui t'amènent de l'impulsion, du dynamisme, de la vitesse, de l'envie, qui t'entraînent. Quand t'as deux Hernandez toi, mais tu peux aller à la guerre. Peux aller à la guerre. Et moi, j'aime beaucoup ces gamins.
Pour simplifier les choses, j'ai l'impression qu'on peut faire une analogie entre cette équipe de France et la volonté de Didier Deschamps d'installer ce trio offensif. Et le Paris Saint-Germain, avec l'envie de tous les supporters d'installer également ce trio offensif, Messi, Neymar, Mbappé, est-ce qu'on peut pas dire tout simplement que le 3-5-2, c'est le seul système tactique qui te permet d'avoir trois joueurs offensifs dans une position assez axiale finalement?
Oui et non. Dans le sens que je vois ce que tu veux dire. Commençons déjà par parler du 3-5-2, si on peut appeler ça un 3-5-2 ou un 3-4-3. Et de se dire que le problème de cette organisation, c'est pas uniquement les trois arrières centraux. C'est ce qui se passe dans la ligne au-dessus de ces trois arrières centraux. Mmh. Il y a deux extérieurs. On s'imagine, si on fait la comparaison avec une équipe de club comme le Paris Saint-Germain, que ça serait aussi la meilleure solution pour Paris Saint-Germain pour tirer profit de Hakimi, de Bernat et de Mendes sur le côté gauche. Ensuite, soit tu mets deux milieu devant les trois arrières centraux, soit tu en mets un en V
et sentinelle et deux autres.
Et là, c'est autant important que les trois arrières centraux. Donc c'est-à-dire que quand
à la place de Deschamps, tu jouerais comment alors au milieu de terrain si t'installes
les trois deux formules.
Ouais. Et ça serait qui ta sentinelle?
Deux formules. Mais ça pourrait être Kanté.
D'accord.
Et tu pourrais avoir.
C'est pas un peu gâché quand t'es en sentinelle comme ça?
Oui et non. C'est quand même très.
Et tu mets Pogba et Tchouaméni à côté?
Non, Tchouaméni aurait son mot à dire, évidemment, dans l'effectif. Pogba, mais je mettrais à ce moment-là. Non, Griezmann et Pogba.
Ouais, oui, bien sûr.
Et aussi,
oui. Voilà. Mais oui, pour moi, je mets Griezmann dans la même zone d'un Pogba, c'est-à-dire un numéro 8, et tu as deux meneurs de jeu en plein milieu de ton organisation. Et devant.
Et Coman à droite, et l'autre Hernandez à gauche.
Oui, absolument. Et le frère d'Hernandez arrière central côté gauche. Griezmann, donc, avec Pogba et Kanté, ou Tchouaméni, si Kanté a un problème, puisque lui aussi, il est souvent blessé. Mmh. Et deux attaquants qui sont pour moi complémentaires, qui se baladent avec un Mbappé un peu à droite, un peu à gauche, Benzema qui décroche et tout ça, et Coman couloir droit. Mais là, quand je m'imagine une équipe de France comme ça, je m'imagine aussi les adversaires, j'ai mal à la tête. Rien que de voir cette équipe de France.
Il nous l'avait pas sorti.
Et après, revenons aussi, pour arriver à trouver une solution qui marche, je vais avoir la prétention de rappeler une solution qui ne marche pas, ou qui ne marche jamais. Mmh. C'est-à-dire que nous avons comme point de repère Benzema, quand on se fout de sa gueule, du record qu'il a passé sans marquer de but, il faut quand même se rappeler de l'utilisation de Benzema. C'est-à-dire un 4-3-3 avec un 9 qui ressemble, tu sais, au palmier de l'île déserte des dessinateurs, là, tu vois, donc, qui a l'air.
Avec l'ailier droit à 20 mètres, l'ailier gauche à 20 mètres.
Qui est à gauche, puis j'ai pas un copain dans cette équipe qui a 10 mètres de moi. Et un jour, hop là, youpi, à la mi-temps d'un match contre l'Irlande, on arrive à penser que finalement, Griezmann va être en retrait de Giroud et on passe dans le 4-2-3-1. Mais comme le 4-2-3-1, il est quand même avec ses quatre offensifs un peu trop offensifs, on va mettre soit un Matuidi à gauche, soit un Sissoko à droite. Mais après, on n'a plus besoin quand même de réessayer le 4-3-3 qui ne marche jamais. C'est pratiquement pareil pour le Paris Saint-Germain. La meilleure formule avec ces effectifs-là, ce n'est pas le 4-3-3. Et je dirais, même si je ne veux pas passer pour le professeur, je conseille même que ce ne soit pas le 4-3-3. Alors, quand tu as évidemment la chance d'avoir de très très bons joueurs, voire même des joueurs exceptionnels, tu peux te permettre, mais tant qu'à faire, même avec des joueurs exceptionnels, trouvons la bonne formule. Et la bonne formule, c'est soit le 3-4-2-1, ouais, soit le 3.
Comme ça avec le V.
Le V, les 5 et les 2 devant. Et là, à ce moment-là, c'est le 3-5-2.
C'est ça, Captain.
Pardon ?
Non, je disais à Captain, ça te plaît cette formule-là proposée par Coach Courbis ?
Il me semble qu'avec avec Coach, on n'est pas loin d'être raccord ou d'être accord. Un accord.
Et d'ailleurs, on précise que c'est un schéma, Jeannot, qui permet à Deschamps d'installer ses cadres dans les meilleures positions. Dans ces cadres, on peut penser à Varane, qui serait très bien en défenseur axial de cette défense à 3.
Et donc je répète que dans le 3, dans ce que tu appelles toi le 3-5-2, ou le 3-4-3, Pavard couloir droit, c'est le Sissoko du 4-2-3-1.
Voilà, exactement. Et puis Griezmann et ses deux attaquants qui seraient dans des positions idéales. Roland, t'as pas terminé effectivement, toi, dans l'idéal, en projection vers le Qatar, dans cette défense à 3, c'est quoi ta défense idéale? Captain nous a parlé effectivement, lui, de Varane dans l'axe, de Lucas à gauche, tu nous l'as dit aussi. À droite, tu préfères un profil comme Koundé ou comme Pavard?
C'est pareil, ben, c'est, voilà, c'est l'un ou l'autre, je pense que c'est bien d'avoir le choix. Varane, pour moi, dans l'axe, c'est le libéro de l'époque. C'est, tu vois, par exemple, dans une organisation à 3 à Montpellier, en club, ben c'est Hilton qui joue le poste d'arrière central axial. C'est pas l'anglais. Excusez-moi, c'est surtout pas l'anglais. Donc, et après, arrière central côté gauche, c'est Kimpembe ou Hernandez. Et là, il faudra que Kimpembe soit en forme parce que si Didier doit faire l'équipe en ce moment, je crois que ça sera peut-être Hernandez qui est un peu devant Kimpembe.
Petite question sur un poste qu'on n'a pas abordé encore, Jeannot, c'est le poste de gardien de but. Hugo Lloris, qui est recordman de sélection, hein, qui empile les sélections.
Et qui va rejoindre normalement Thierry Henry avec 4 Coupes du Monde.
Là, il n'y a pas de débat, à ton avis, pour Deschamps? Ce sera le numéro 1, quoi qu'il arrive, peu importe l'état de forme, peu importe tout ce qui arrive. Même si Maignan est stratosphérique avec
lui. Il y a un an encore, les amis.
Ouais, c'est pour ça. Il y a un an, l'attente du retour de Mike Maignan de sa blessure, de voir ce que ça va donner, avec la
AC Milan. Il a rejoué un peu en fin d'année.
Oui, non, mais attendez, la AC Milan qui n'a pas de Coupe d'Europe, n'oublions pas non plus. Donc, ça veut dire quelque part que, on va juger la concurrence de quelle manière? On va la juger Tottenham qui va peut-être ne pas avoir de Coupe d'Europe non plus. Ouais. Donc on va les juger tous les deux sur jusqu'à la prochaine saison l'évolution qu'ils puissent avoir Maignan avec l'AC Milan et Lloris s'il reste ou pas. Il y a ça aussi, il y aura
après,
le choix.
Un statut particulier Lloris, sachant quand même qu'il y a déjà eu une petite remise en cause puisque c'est Maignan qui est passé numéro 2, le sélectionneur nous l'a
oui non mais ça confirmé. Ça c'est pas une remise en cause par rapport à Lloris. Lloris reste numéro 1
sans par rapport à Mandanda.
Mais Mandanda pour moi c'est terminé. C'est simplement de savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement pour le poste de numéro 3.
Oui mais quand tu es numéro 2, tu es plus près du numéro 1 que quand tu es numéro 3.
Mais c'est indéniable, c'est incontestable voilà, c'est, le fait que
là je fais du coach Courbis là je
non mais Maignan numéro 1
400 en moins mais c'est à peu près ça.
Maignan numéro 1,
le numéro 3.
Maignan numéro 1 à l'Euro 2024 et peut-être pour les qualifs qui vont avec, pas de souci. Par rapport à la Ligue des Nations en juin et en septembre, je pense pas. Et simplement sur ce poste-là, sur la liste des 23, restons sur la base de 23, c'est l'interrogation de savoir qui sera le numéro 3. Logiquement, Alphonse Areola. À moins qu'il y ait, c'est ce qu'il a démontré en novembre dernier, messieurs, à moins qu'il y ait vraiment une forte progression par rapport à Meslier, par exemple, qui est le gars gardien titulaire des espoirs.
Il est remplaçant dans son club, non ?
Il joue la Coupe d'Europe et il a joué la Coupe de l'équivalent de la Coupe de la Ligue.
On rappelle que même Benoît Costil avait été appelé lors de la Ligue des Nations.
Oui, oui.
Il a gagné la Ligue des Nations. Même Benoît Costil.
Ah, parce que vu la saison de Bordeaux, c'est terrible de voir Costil en équipe de France.
Non, mais sur la hiérarchie des gardiens de but, pour moi, pour la Coupe du Monde, ça bougera pas.
Voilà. Exactement.
En tout cas, pour le numéro 1.
Et ben voilà, donc pour le schéma tactique, pour vous, c'est peut-être la meilleure solution, même s'il faut des ajustements à certains postes.
De travailler non pas 50 organisations, mais au moins deux organisations, et même dans la même organisation, deux formules, une formule un peu plus défensive et une formule un peu plus offensive. Après, on viendra aussi sur un poste qui est le poste de, allez, meneur de jeu, que évidemment capitaine connaît encore mieux que moi. Oui. Par exemple, aujourd'hui c'est Griezmann, à Marseille c'est Payet. Mmh. Donc là, quand
t'as... Tu donnes le retour de Payet, toi ?
Non, je dis pour démontrer l'importance. Et quand on me dit que c'est impossible d'avoir Savanier...
Eh ben, on va en parler.
Je trouve que
il est fort. C'est vraiment un homme de radio, coach Corbis. Exactement. On en parle dans un instant. Vos surprises possibles en vue du Qatar pour la Coupe du Monde qui arrive dès le mois de novembre prochain. À tout de suite sur RMC. C'est la fin de cette émission intégrale foot spéciale équipe de France avec coach Corbis, Captain Larquet et Jeannot Récilly.
Jusqu'à 18h,
RMC, spéciale équipe de France.